Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Un divorce a été prononcé au tort exclusif d'une femme parce qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Laurence Mogé-Villalpo nous rappellera tout à l'heure ce qu'est le devoir conjugal. Et puis il y a le canal de Suez qui a été bloqué pendant presque une semaine par un porte-conteneur, un peu plus, et on manquait de chaussettes et de papier hygiénique. Paul Touré nous expliquera pourquoi une bonne partie de tout ce que l'on consomme passe par ce sacré canal. Mais d'abord, le sujet de la semaine, le Covid à l'école. Gilles Pialoux est mon premier invité ce matin. Bonjour Gilles Pialoux. Vous êtes infectiologue, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Vous faites partie de celles et ceux qui ont signé cette semaine une tribune dans Le Monde sur le Covid dans les écoles, les collèges et les lycées. On n'a jamais autant parlé des enfants et des adolescents en tant que vecteurs de la contamination. Pourquoi aujourd'hui ? Est-ce que jusque-là, c'était un déni ?
Alors bon, on peut pas tout mettre sur le compte du déni, parce que effectivement là, on est dans une période politique où le déni, en tout cas concernant l'école, est assez massif, c'est vrai, avec la doctrine de non-fermeture des écoles. Mais il faut un petit peu remonter en arrière, et il y a eu quand même beaucoup de doutes scientifiques, notamment au tout début, où on a dit que les enfants, et y compris d'ailleurs la plupart des experts, que les enfants étaient plutôt non-contaminateurs, avaient des formes sans symptômes, et jouaient finalement un modeste rôle dans la circulation du virus. Donc ça c'était avant, et après les choses ont progressé, et puis surtout, on est dans une nouvelle épidémie. Alors, ça a été dit par le président de la République, mais on est dans une nouvelle épidémie, ou dans l'épidémie, si l'on peut dire. Et en fait, les Anglais ont bien regardé, c'est-à-dire que les Anglais, en fait, ont la possibilité de faire des études en population générale. Ils viennent de sortir une étude sur 12 millions d'adultes en Angleterre, ce qui est absolument étonnant. Et ben, quand ils regardent pendant la première vague en Angleterre, il n'y a pas de corrélation entre le fait d'avoir un enfant scolarisé et le fait que les parents aient plus de Covid. Par contre, dans la deuxième vague, qui inclut d'ailleurs probablement une partie du variant anglais, il y a une augmentation du risque pour toutes les tranches d'âge. 0, 11 ans, 12 ans, 18 ans. Donc, probablement qu'il y a eu une errance un peu scientifique au début, et puis une deuxième phase qui est effectivement celle du déni politique, mais là, on est sur un autre sujet. Et puis, les pédiatres sont entre les deux, si je puis dire. Les pédiatres, ils essayent à la fois de protéger la santé mentale des enfants, et puis de tenir compte de l'état de la science.
Alors aujourd'hui, les établissements scolaires sont des vecteurs importants de l'épidémie. On peut le dire ou on ne peut pas le dire ?
Ah bah, nous, c'est clairement le titre de la tribune du Monde qu'on a signé avec un certain nombre de collègues, dont Dominique Pegliola et Mélanie Hearn. Oui, c'est un des éléments, hein, un talon d'Achille, a dit Arnaud Fontanet, un talon d'Achille. Alors après, la discussion n'est pas de savoir qui contamine qui et de chercher de faire une sorte de credo familial. C'est un lieu de transmission, quel que soit le sens, vous voyez ce que je veux dire. Si l'enfant est contaminé dans le milieu familial et qu'il va en milieu scolaire, par définition, il participe à la circulation du virus.
Les cantines, les classes, j'imagine que la reprise des cours d'éducation physique à l'école, au collège et au lycée depuis le 19 mars, à vos yeux, ça n'est pas une bonne nouvelle non plus.
Là, ça fait partie de ce que nous, sur le terrain, en tant que soignants, on confirme qu'il y a une dissociation totale entre les décisions politiques et les données scientifiques, parce qu'il n'y a aucun substratum scientifique à permettre la gymnastique en milieu clos. Et puis après, il y a aussi le problème actuellement de l'exécutif, c'est que les protocoles sanitaires sont souvent déconnectés de la faisabilité et du terrain. Alors je peux prendre deux ou trois exemples, hein. L'absentéisme des enseignants même si les enseignants ne sont pas une profession parmi les plus touchées, il y a un absentéisme des enseignants, et vous savez comment se fait la mécanique, c'est-à-dire pas de remplaçant, on regroupe les élèves dans une classe, ça c'est la première chose. On a maintenu les cantines, il y a le casse-tête de la ventilation qui est hallucinant, parce que vous savez, il y a à la fois les normes de sécurité qui fait qu'on ne peut pas aérer les classes quand les enfants sont là, et à la fois la nécessité de les aérer idéalement 10 minutes assez régulièrement, toutes les heures ou toutes les deux heures. Donc ça, c'est extrêmement compliqué quand vous discutez avec les enseignants, c'est un casse-tête. Il y avait d'autres choses dont on a parlé dans la tribune, des capteurs de CO2 qui permettraient de faire une ventilation adaptée à la réalité.
Ça, si on ne voulait pas fermer les écoles. Hein, dans votre tribune, vous dites qu'il aurait fallu installer des capteurs de CO2 dans les classes, des purificateurs d'air, multiplier les lieux de repas, c'est-à-dire pas que tout le monde ne les prenne pas dans la même salle.
Oui, alors ça c'est clair, mais maintenant là, depuis hier, les classes sont fermées. Je pense qu'il faut quand même réfléchir à l'étape d'après. Là, on n'est plus à discuter de s'il aurait fallu, ce que je pense, fermer les écoles plus tôt, mais savoir comment on va les réouvrir. Et c'est ça qui manque cruellement en France, c'est-à-dire que on n'aura pas une vaccination des enseignants qui nous permettra de tranquilliser là-dessus, parce que la vaccination des enseignants, elle a été déclarée, mais elle n'est pas efficiente, elle n'est pas efficace actuellement, elle n'est pas en action. Et deuxièmement, on manque de dépistage. Le ministre avait annoncé 300 000 tests par semaine. Vous savez que globalement, on a probablement testé autour de 0,4% des écoles des enfants du primaire. Et on sait peu de choses du lycée et du collège, puisque là, c'est des tests PCR, c'est pas des tests salivaires. Donc on a un déficit de marqueurs pour ouvrir et fermer. Donc la décision politique est de fermer. Et la décision de réouvrir, elle doit poser sur des arguments scientifiques et épidémiologiques.
On fait une pause, on y revient tout de suite, Gilles Pialoux.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec l'infectiologue Gilles Pialoux. Vous entendez bien, et le président de la République et le gouvernement en général, depuis le début, ils nous disent que fermer les écoles, ça aurait été une catastrophe. Ils ont toujours insisté sur les dégâts pédagogiques, sur les dégâts psychologiques et sociaux que ça occasionne.
Oui, mais ça fait typiquement partie d'un débat où chacun tire un peu la couverture à soi, et c'est regrettable que dans cette pandémie qui est très particulière, qui a des implications évidemment économiques, sociales, psychologiques, on n'arrête pas de le dire, il n'y ait pas eu de débat citoyen ou parlementaire qui mette justement les spécialités les unes à côté des autres pour échanger. Je prends quand même un exemple qui est celui des violences intrafamiliales et du fait que fermer les écoles creuserait les inégalités sociales, ce qui est certainement vrai. Mais si vous prenez la Covid elle-même est l'objet de violences intrafamiliales, notamment à cause des clusters, quand on recherche le coupable et qu'on trouve le coupable à l'intérieur d'une cellule familiale. Ça, nous, on le vit régulièrement quand on a une famille entière qui est hospitalisée. Donc,
vous voulez dire que quand il y a parent qui est hospitalisé, parfois on se retourne vers les enfants et on les accuse d'en être responsable?
Oui, et puis parfois c'est des situations très tragiques. Hein. On a eu des expériences de familles où des jeunes, enfin des adolescents, avaient fait des fêtes, etc., et avaient été quasiment asymptomatiques, et où on retrouvait les deux parents en réanimation et un des frères hospitalisés. Donc les violences intrafamiliales, c'est pas seulement le confinement, vous voyez ce que je veux dire, ça a crispé encore le débat sur le confinement et la fermeture des écoles. Et puis l'autre chose, c'est de creuser les inégalités sociales. Bien sûr que la fermeture des écoles creuse les inégalités sociales et que évidemment vous aurez moins de télétravail, moins d'accompagnement, moins d'ordinateurs à domicile dans la Seine-Saint-Denis, qui a une des incidences les plus élevées d'Île-de-France. Tout le monde le sait, ça. Mais vous savez aussi que le virus induit lui-même des inégalités sociales. C'est pas n'importe quelle profession qui sont touchées, c'est pas n'importe quel contexte. Donc c'est très compliqué de poser, c'est pas manichéen, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la fermeture des écoles, elle a probablement des avantages et des inconvénients, et les pédiatres se sont un peu opposés, et puis maintenant ont des positions qui sont divergentes. Vous avez vu, dans un autre numéro du Monde, il y avait deux tribunes, une en faveur de la fermeture des écoles et une autre en faveur de l'ouverture des écoles, tout ça signé par des gens qui étaient pédiatres ou pédopsychiatres. Donc le sujet est extrêmement complexe.
Gilles Pialoux, vous dites que là, on le répète, les écoles, les lycées, les collèges sont fermés pour les vacances. Le problème, c'est le retour. Or, d'après vous, on ne teste pas assez, donc on ne trace pas, donc on n'isole pas. Donc le problème va se reposer au moment de la réouverture.
C'est la problématique globale qui est appliquée aux écoles. C'est qu'on court après la pandémie depuis maintenant des mois, voire une année, que des décisions sont prises tardivement au vu du sanitaire, dont celle dont on parle là actuellement, mais qu'on n'a pas de plan, alors il paraît que ce plan va être affiché, qu'on n'a pas de plan de sortie de mesures. Voilà, ces 50 nuances de mesures, comme nous a dit le ministre de la Santé, eh ben, il faut voir quand est-ce qu'on va pouvoir les relâcher et sur quels critères. Mais c'est vrai que ça passera par le dépistage, comme vous l'avez dit, l'augmentation du dépistage en milieu scolaire, le fait effectivement de pouvoir offrir un accompagnement aux personnes qui ne peuvent pas s'isoler. Et on a raté ce tracé isolé depuis le début en France, alors que d'autres pays y sont arrivés, l'Espagne, l'Allemagne. Et puis effectivement, la vaccination qui va augmenter et se posera d'ailleurs assez vite le problème de la vaccination des enfants. Mais pour l'instant, c'est trop tôt parce qu'on n'a pas de donner encore.
Mais justement, j'allais vous en parler, puisque vous avez parlé de la vaccination des enseignants, mais jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a parlé de vaccination, on a parlé de vaccination des adultes, et uniquement des adultes, ni des enfants, ni des adolescents.
Oui, parce qu'on manque de données, mais ces données vont arriver. Il y a plusieurs essais internationaux, notamment aux États-Unis, sur une population plus jeune et sur des enfants. Et je pense que quand on aura ces données, on pourra... très rapidement proposer une vaccination aux jeunes. Alors il faudra voir où se situe la tranche d'âge la plus la ciblée, mais c'est un élément qui apportera effectivement, parce que quand on dit que, vous savez, les variants anglais ont monté un peu l'exigence en termes de ce qu'on appelle l'immunité collective, puisqu'on considère maintenant qu'avec ce variant-là, il faut que 80% de la population soit vaccinée. Donc on aura du mal à se passer de la vaccination des ados, des jeunes et peut-être des enfants à terme.
Oui, puisque 80% de la population, c'est déjà plus que la population adulte. Donc forcément, et puis ne serait-ce que parce qu'on nous le dit, dès l'instant où tout le monde n'est pas vacciné, ou en tout cas tout le monde n'est pas immunisé, il y aura de nouveaux variants qui reviendront.
Bien sûr, il y a de nouveaux variants. Et le problème de la vaccination, comme l'a expliqué le Conseil scientifique, c'est une course contre la montre entre vaccins et variants, et on le voit bien. Parce que si, par exemple, les variants brésiliens ou sud-africains dépassaient les chiffres qui sont actuellement autour de, disons, 5%, il y aurait une vraie problématique d'adaptation rapide des vaccins, parce que la plupart de ces variants autres que le variant anglais ont tendance à échapper aux vaccins qu'on connaît. Donc on est vraiment dans une course contre la montre, c'est vraiment le terme du conseil scientifique.
Alors donc les écoles sont fermées pendant les semaines qui viennent, les trois semaines qui viennent, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, vous, Gilles Pialoux?
Ce qui me préoccupe le plus, c'est comment on peut à la fois demander plus de solidarité intergénérationnelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas la clé, parce qu'effectivement, c'est à l'intérieur du foyer que les contaminations ont lieu. Ça, c'est la première chose. C'est que c'est difficile d'avoir des marqueurs pour réouvrir les écoles. Et puis, peut-être un focus sur quelque chose qui nous préoccupe. Moi, je suis dans un gros groupe hospitalier qui regroupe à peu près 4500 lits et 16 000 personnes, où il y a 16 000 personnels. C'est la Pitié-Salpêtrière. Il y a un hôpital pédiatrique. Donc, on suit les alertes des pédiatres. Et pour vous fixer une dimension complexe, c'est qu'il y a eu... Parce qu'on a beaucoup agité le spectre des détresses psychologiques, des tentatives de suicide chez les jeunes. Et pendant le confinement dur d'avril, il y a eu moins de suicides, notamment chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, que dans la même période que 2019. Alors après, on peut épiloguer pourquoi. Mais par contre, il y a une réelle alerte actuellement dans plusieurs hôpitaux pédiatriques sur l'augmentation des consultations de pédopsychologues et de tentatives de suicide chez les très jeunes, et qui est effectivement un sujet à prendre avec beaucoup de sérieux, parce que probablement qu'il y a plusieurs composantes, et qu'on dit toujours le confinement c'est horrible pour les enfants, mais ce stop and go, cette absence d'incertitude, cette absence de programmation de la sortie de crise, des dates qui se repoussent tout le temps, et cette absence de visibilité du moment où on pourra embrasser ses grands-parents et aller au cinéma et au cirque, je pense qu'aussi ça joue beaucoup sur la détresse psychologique des plus jeunes. Donc je pense que c'est un sujet vraiment qui mérite d'être débattu au niveau citoyen, je pense.
Merci beaucoup Gilles Pialoux, et bon courage. Et on se retrouve dans un instant, on va parler de ce porte-container qui a bloqué le canal de Suez pendant presque une semaine et qui nous a donné tout à coup un instantané de la mondialisation.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Un porte-conteneur de 400 mètres de long a bloqué le canal de Suez pendant presque une semaine avant d'être remis à flot. Près de 400 bateaux étaient en attente, ce qui a créé une certaine angoisse en matière d'approvisionnement. L'Europe risquait en effet de manquer de papier hygiénique, de chaussettes, de meubles Ikea, de pièces électroniques pour nos voitures ou de médicaments. Bonjour Paul Touré.
Bonjour.
Vous êtes expert maritime, directeur de l'Institut supérieur de l'économie maritime. Vous contribuez régulièrement à un site comme Atlantico. C'est en fond un instantané de la mondialisation économique auquel nous avons assisté. Ça nous a permis de réaliser que 90% du commerce mondial se fait par la mer.
Alors effectivement, au-delà de l'accident ou de l'incident, ça permet à tout le monde de découvrir notre dépendance au transport maritime. Vous l'avez dit pour les produits manufacturés, mais en fait c'est l'ensemble de notre vie qui est conditionné par le transport maritime, puisque l'énergie, une partie des aliments, des produits industriels sont transportés par voie maritime.
Et au fond, ces porte-conteneurs, comme leur nom l'indique, portent des conteneurs. Et sans les conteneurs, qui sont ces caissons parallèles, bipédiques en métal inventés en 1956 par Malcolm MacLean. Au fond, sans ces conteneurs, il n'y aurait pas eu de mondialisation.
Bah en tout cas, elle est facilitée par cette facilité de transport des marchandises. On peut directement les mettre à l'usine. Ils sont transportés par camion, par barge, par train. Puis après, ils font des circuits maritimes relativement longs. Ils peuvent être rééchangés dans les ports et finalement être vidés dans un entrepôt avant d'arriver dans la grande distribution. C'est l'outil de la globalisation. On ne pourrait pas faire sans parce que ça facilite, ça permet aussi ce qu'on a vu, et d'où les questions de dépendance, c'est-à-dire ce flot continu de conteneurs avec des produits qui approvisionnent en permanence nos industries et notre grande distribution.
Pour que le transport d'un téléviseur depuis Shanghai ne soit pas plus cher que s'il venait de Munich ou de Milan, il faut des porte-conteneurs de plus en plus grands. Sur l'Ever Given, celui qui s'est bloqué dans le canal, il y avait 24 000 conteneurs. On va encore augmenter, c'est sans limite, parce que c'est déjà un des plus gros là.
Alors heureusement, il y a une petite limite. En fait, la limite, elle vient justement des ports. C'est-à-dire que ces bateaux sont tellement grands qu'il faut aussi pouvoir les accueillir. Et il y a beaucoup de ports qui sont à la limite. Donc on estime que cette profondeur, cette longueur, cette largeur est aujourd'hui à peu près ce qu'on peut faire au maximum. Après, on dépasse finalement la capacité physique dans les ports de pouvoir faire tourner les navires, de pouvoir les décharger. A priori, c'est la limite pour cette décennie. Après, il n'est pas dit que dans le courant du siècle, on puisse pas aller sur des tailles encore plus XXL. Mais pour l'instant, on estime qu'on est à peu près à un format admissible.
Plus il y a de conteneurs, moins le trajet est cher. Mais on dit aussi que moins il est polluant.
Alors effectivement, parce que deux navires qui transporteraient chacun 12 000 conteneurs seraient plus polluants qu'un seul. Donc l'économie d'échelle a quand même un impact. Et puis il faut pas oublier qu'il y a du progrès. Par exemple, la grande compagnie française qui s'appelle CMA-CGM s'est équipée en bateaux à motorisation GNL. On voit des recherches sur d'autres types d'énergie. Donc il faut pas désespérer. Certes, c'est l'objet de la mondialisation qui est souvent un peu critiqué, mais lui-même, il progresse et il doit que progresser puisque les réglementations internationales vont dans ce sens-là.
Alors, tout ce dont nous avons besoin passe par les conteneurs, par les porte-conteneurs, et ça inclut les animaux vivants. On s'en est aperçu là, hein, avec le blocage du canal par l'Ever Given. Il y avait dans les cargos coincés d'un côté comme de l'autre du canal de Suez, il n'y avait pas moins de 130 000 moutons.
Oui, effectivement, il y avait une douzaine de cargos avec des animaux vivants parce qu'on est à la période clé en fait des fêtes religieuses de la péninsule arabique, du monde arabe et musulman, et donc il y avait beaucoup d'animaux qui arrivaient de Roumanie, et on a déjà vu en plus ce type de navire avoir des accidents, on se souvient l'été dernier ou un peu avant. C'est une des problématiques du transport maritime, on y fait pratiquement tout et n'importe quoi, y compris ces animaux. On a des cas aussi d'animaux qui arrivent d'Australie pour les marchés de la péninsule arabique. Ça fait partie justement de tout ce qui circule sur nos mer, avec des fois des répercussions ou morales ou environnementales qui peuvent être à la limite contestables.
Nos usines fonctionnent à flux tendu. Le moindre retard peut provoquer des réactions en chaîne. C'est exactement ce qui s'est passé là. C'est ce qu'on a vu. Hein. On l'avait vu déjà au moment du Covid avec la fermeture des ports. Mais là encore, j'insiste, c'était un instantané de notre mondialisation.
Hein. Alors, on est très dépendant. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a des usines qui sont à l'autre bout de la terre et qui sont dans des processus logistiques extrêmement en flux tendu, c'est-à-dire que les 20 ou 25 jours maritimes sont inclus par les distributeurs et les industriels dans le processus économique. Ça pose des questions en cas de rupture. Alors, c'est moins grave quand c'est des objets du courant au quotidien dans la grande distribution, on peut s'en passer. Mais quand on apprend que c'est aussi dans des cycles de production industrielle et voire très élaborés, comme par exemple dans l'automobile ou peut-être même dans l'aérien, ça pose des questions sur ce fonctionnement de cette planète qui vit d'une manière frénétique avec les transports et l'industrie qui s'adapte à une chaîne économique à la fois complexe et qui est aussi de temps en temps contrainte.
Vous dites 20-25 jours de bateau, mais on dit 2 mois aussi entre Shanghai et l'Atlantique.
Alors c'est quand on y met tout, à peu près une vingtaine de jours de Singapour à Rotterdam, on y rajoute une semaine un peu au nord, on y met du temps portuaire. Donc c'est vrai que d'une usine à la grande distribution en Europe, il y a 2 mois. Mais sur les États-Unis, par exemple, il y a juste 14 jours pour traverser le Pacifique, après 5-6 jours de train. Et vous voyez, c'est les chaînes entre la production chinoise chinoise et la grande distribution dans un Walmart à Chicago, il y a un temps qui est finalement assez réduit et presque anodin.
Paul Touré, on se retrouve dans un instant, juste après une pause. Vous allez continuer de nous décrire cette mondialisation qu'on ne soupçonne pas toujours.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Paul Touré, le directeur de l'Institut supérieur de l'économie maritime. On parle du blocage du canal de Suez qui a duré presque une semaine par l'Evergreen, un bateau de 400 mètres qui bloquait le canal et qui bloquait par la même occasion près de 400 cargos qui étaient en attente, enfin 400 bateaux, il n'y avait pas que des cargos. On voit bien que le canal de Suez, c'est une zone stratégique. 10% du commerce mondial passe par là.
Alors, on est bien dans la notion de verrou. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Français étaient, avec Bonaparte, allés occuper l'Égypte, que les Anglais l'avaient mis sous leur tutelle. Ces passages maritimes, il y en a d'autres. Il y a notamment le détroit de Malacca et le détroit de Phillips à Singapour. Ce sont des passages contraints. Et on y voit que dans les deux sens, des marchandises y passent. D'où aussi l'Égypte qui tire beaucoup de satisfaction d'être ce verrou du monde, même si elle n'a pas du tout l'intention de le fermer, au contraire, de le rester fluide. On a vu que la Russie faisait des propositions de contournement par l'Arctique. Ces routes stratégiques ont une certaine dimension aujourd'hui géopolitique, même si l'économie courante y est moins sensible. En tout cas, les États montrent régulièrement leur intérêt pour ces questions-là. Juste une chose, par exemple à Gibraltar qui est relativement pacifique, les Américains s'inquiètent des fois des investissements chinois qu'on pourrait faire dans les ports, par exemple au Portugal.
Oui, mais alors quand même, le canal de Suez, 19 000 bateaux par an, plus d'un milliard de tonnes de marchandises, c'est rien par rapport à la mer de Chine. La mer de Chine, c'est un tiers du commerce mondial. Mais restons sur le canal de Suez, parce qu'il se bloque plus facilement. Alors, il y a seulement 8% du pétrole qui passe par le canal, d'après ce que j'ai pu voir. Mais sinon, il y a tout le reste. Alors, pourquoi seulement 8% du pétrole? Parce qu'on s'inquiète, justement, c'est tellement stratégique le pétrole qu'on ne préfère ne pas le faire passer par le canal de Suez.
Alors, en fait, les ressources américaines, d'un côté, et puis le fait que l'Europe ait diversifié ses origines, l'entrée de la Russie dans le commerce normal après la chute du mur de Berlin, a un peu décanté, on va dire, la question du Moyen-Orient pour le pétrole en Europe. Ce n'est plus que 20%. En plus, les plus grands bateaux continuent à faire le tour de l'Afrique. Donc, la question pétrolière Moyen-Orient-Suez s'est un peu dégonflée, entre guillemets, en termes de géostratégie, même si elle est importante, parce qu'on voit que la sensibilité qu'il peut y avoir au prix, c'est plutôt aujourd'hui une question du Moyen-Orient. Et puis en regardant les statistiques du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, on voit qu'il y a 50 millions de tonnes qui montent, mais aussi 50 millions de tonnes de pétrole qui descendent. C'est-à-dire qu'il y a aussi du pétrole azéri, russe, peut-être algérien, qui va vers l'Inde ou la Chine. Ce qui rend évidemment ce pétrole moins géostratégique, on va dire 70s, pour être beaucoup plus dans la modernité de la globalisation, c'est-à-dire des échanges dans tous les sens.
En tout cas, le blocage du canal a mis en évidence la fragilité de nos voies d'approvisionnement. Certains étaient prêt, comme vous l'avez dit, à contourner l'Afrique par le cadre de Bonne Espérance, comme jadis. Mais enfin, ça paraît invraisemblable. Ce serait beaucoup plus long.
Alors, on prend 7 jours de plus. Alors, ça a un défaut, c'est que vous usez plus, évidemment, les navires, vous usez plus les équipages, puisque vous retrouvez sur l'année, peut-être, à faire au moins un tiers de voyage en plus. Du point de vue du coût, c'est pas évident, parce qu'en fait, 7 jours de pétrole, bah, en fait, ça correspond, 7 jours de consommation d'un super navire, comme ça, d'un porte-conteneur ou d'un pétrolier, bah, ça correspond aussi au prix du canal. En fait, les Égyptiens sont pas fous, ils ont mis le tarif du canal comme un raccourci, mais au prix quasiment du contournement. Donc, pour les armateurs, ça a à peu près le même prix, sauf que, évidemment, il faut user les navires, et puis ça ralentit le système. Or, on l'a dit tout à l'heure, le système, il est plutôt fait pour qu'on ait juste à temps des pièces à l'usine ou des produits à vendre au supermarché.
Vous l'avez dit aussi, les Russes proposent de passer par le nord, par la mer Arctique, parce que le réchauffement climatique fait qu'elle est souvent libre de glace aujourd'hui.
Alors, on n'est pas très fan du passage, pour plusieurs raisons. D'abord, la pertinence économique, elle est plutôt au nord de l'Europe et au nord de l'Asie. Or, le nord du Japon et le nord de l'Europe n'ont pas grand-chose à échanger. La pertinence, elle est plutôt par le sud, parce que en plus, vous avez la moitié des habitants du monde qui habitent à moins de 3 ou 4 000 km de ce grand axe est-ouest par l'océan Indien et la Méditerranée. C'est en plus, on sera toujours dans des conditions hivernales, on reste sous la tutelle russe, donc pourquoi se priver d'un canal de 200 km pour aller prendre une voie maritime, certes plus courte, de 7000 ou 8000 km de côte russe. Donc pour l'instant, les experts maritimes, mais aussi les compagnies, sont plutôt prudentes. D'ailleurs, CMA-CGM, pour la reciter, avait dit qu'elle ne passerait pas par le canal avec un léger greenwashing, ou en tout cas une intention de montrer qu'elle souhaitait pas avoir un impact environnemental dans ses latitudes nord.
Mais les Chinois quand même pensent au train, par la route de la soie, ça fait 11 000 km pour rallier l'Atlantique, 15 jours en train contre 25 jours en bateau, voire 2 mois. Alors ce serait quoi le problème du train ?
Alors le train, bon déjà c'est les particularités climatiques, vous avez des trains qui subissent du froid et du chaud dans la journée. En plus l'écartement russe est un écartement un peu différent de celui des Chinois et des
Européens.
L'écartement
des rails, vous voulez dire ?
Des rails. Et, par contre on a le prix quand même, le prix c'est 2 fois plus cher. Alors, en ce moment les conteneurs maritimes sont tellement chers qu'on ne doit pas voir forcément la différence, c'est un peu plus cher. C'est plutôt pour de la logistique véritablement timée. Par exemple, les collections d'été, si vous faites faire des collections pour la grande distribution européenne en Asie, bah c'est beaucoup plus rapide. En 11 jours, vous avez votre collection et vous pouvez la mettre à disposition rapidement. Ça se voit pour les pièces auto dans les deux sens. D'ailleurs, la ligne a été initiée par BMW pour ses usines chinoises pour approvisionner. Donc on serait plutôt dans ce processus-là, mais peut-être que l'accident va pousser encore plus les Russes et les acteurs à multiplier ces trains, et à la rigueur c'est pas illogique, ni du point de vue environnemental ni du point de vue logistique. On peut payer un peu plus du transport, juste pour que nos auditeurs le savent, c'est seulement 1% du transport dans un produit manufacturé qu'on est vendu dans la grande distribution. 1% c'est le transport maritime, on peut donc presque lui affecter 2%, ça serait pas très cher.
1% c'est effectivement c'est dérisoire hein, quand on pense à il fallait d'énormes bateaux comme celui qui s'est bloqué justement pour y parvenir.
C'est ça le compte de Suez de ce mois de mars, c'est finalement rappeler à tout le monde qu'on est très dépendant de cette globalisation économique et maritime. Et que derrière tout produit made in China qu'on voit ou carton, il y a un processus logistique et donc ces grands navires qui peuvent être aussi décriés, hein, on sait l'impact environnemental qui peut être dit et la mise en critique, mais on a souvent l'habitude de dire non, le problème du navire c'est finalement le responsable, c'est nous qui achetons du made in China, qu'on le veuille ou non, on est responsable de ce processus logistique et puis les industriels qui vont derrière, mais c'est toutes les questions contemporaines autour de notre mode de vie, notre mode de consommation et de la mobilité des marchandises et des délocalisations. Les questions c'est en poupée gigogne se suivent et s'enchaînent.
Merci Paul Touré, merci beaucoup. Et on va voir dans un instant que si dans un couple on a un peu trop souvent la migraine le soir, ça peut vous conduire au divorce et au divorce pour faute. On va voir ça avec Laurence Mogé-Vielpeau.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
La cour d'appel de Versailles a prononcé un divorce au tort exclusif d'une femme au motif qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari, ce qui a soulevé immédiatement une controverse. On va voir pourquoi avec Laurence Mogé-Vielpeau. Bonjour Laurence, vous êtes avocate à Caen. Vous n'avez pas plaidé dans cette affaire, hein, mais vous êtes une spécialiste du droit de la famille. Vous êtes également professeure de droit privé à l'Université de Caen. Les relations sexuelles font-elles partie des obligations entre époux ?
Alors, elles font partie en tout cas du mariage. Des obligations, c'est tout l'enjeu, je pense, de cette affaire. Elles font partie du mariage dans la mesure où on s'engage à une communauté de vie, hein, ce qui est prévu par le Code civil, c'est l'article 215 du Code civil. Et à partir du moment où on s'engage à une communauté de vie, elle a été déclinée aussi bien en doctrine qu'en jurisprudence, comme incluant une communauté de toi, sauf exception, hein, si on travaille dans des lieux différents notamment, une communauté intellectuelle et affective, donc c'est plutôt une communauté de sentiments, ainsi qu'une communauté de lits, qui, bien sûr, là pour le coup, fait référence aux relations sexuelles qu'on peut avoir, comme, je vous dirais, dans d'autres vies de couple, comme le PACS également, hein, qui implique aussi cette communauté de lits.
Alors c'est ce fameux devoir conjugal dont on a souvent entendu parler, qui n'est pas écrit dans le Code civil, mais qui néanmoins, d'après ce que vous nous dites, existe. En même temps, une relation sexuelle forcée entre mari et femme est un viol hein, aujourd'hui. Alors est-ce que c'est incompatible avec le devoir conjugal, l'obligation des relations sexuelles entre époux ? Est-ce que ça pourrait être considéré comme un asservissement sexuel, comme certains le disent, pour s'opposer justement à la décision rendue par la Cour d'appel de Versailles ?
Alors, moi, je crois qu'on est quand même sur deux plans différents. Le viol entre époux, c'est véritablement quand il y a une relation sexuelle qui n'est pas consentie. C'est le défaut de consentement à l'acte qui va entraîner la qualification pénale. Et donc, si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, on sera en présence d'un viol. Alors, le devoir conjugal, en tant que tel, effectivement, à mon sens, n'est absolument pas écrit dans les textes, tout simplement parce que ça correspond pas du tout à la vision du mariage qu'on a dans le Code civil, hein, tel qu'il est issu du travail des rédacteurs du Code civil, qui ont voulu justement rompre avec le droit canonique, qui avait une vision beaucoup plus charnelle des choses. Et la non-consommation, dans le droit canonique, était même pas une cause de divorce, puisque le divorce n'est pas admissible dans le droit canonique, c'était une cause d'annulation du mariage. Les rédacteurs du Code civil ne sont pas du tout partis sur cet aspect-là, ils ont voulu rompre avec cela et ont plutôt insisté sur l'aspect volontaire, consentement au mariage. Donc si on a cette vision, justement, qui à mon sens est très actuelle, eh bien il faut aussi consentir dans le mariage à ce qu'on veut, finalement. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'un devoir conjugal? Ben, après, c'est affaire de discussion.
Il y en a qui parfois consentent pour faire plaisir à l'autre, mais c'est quand même consentir.
Ça se discute. Pour l'avoir vu en pratique, j'en suis pas toujours si convaincue parce que il y a quand même plutôt un rapport de force aussi dans ce cas-là. Moi, j'ai entendu justement dans ma pratique des femmes me dire « bon, bah bien sûr, j'ai fait ce qu'il fallait parce que comme m'a dit mon mari, je suis tenue au devoir conjugal et donc j'ai pas le choix ». Donc voilà, là pour le coup, ce sont des discours qui ne sont pas rares et pour lesquels on n'est pas vraiment, à mon avis, dans une relation consentie pour le coup.
On a droit au rapport sexuel, mais ça n'est pas une obligation. En fait, c'est quand même assez compliqué, hein.
Oui, c'est assez compliqué. Ça pourrait même paraître contradictoire par certains côtés, mais il y a aussi une évolution du mariage. Comme je vous disais, il y a déjà la tradition du Code civil qui ne s'inscrit pas dans une conception charnelle. Ça, c'est une chose. Mais aussi une évolution du mariage qui laisse de plus en plus de place à la liberté individuelle. Et il est vrai que la question des relations sexuelles est au cœur de la liberté individuelle. Et puis, si on rentre dans ce débat, hein, moi, je ne suis pas du tout favorable à un divorce pour faute, je vous le dis très honnêtement, dans un tel cas. Il va falloir que les juges se penchent sur l'intimité des couples. Et puis, à partir de quand ils vont considérer que la relation n'est plus normale? À partir de quand elle va constituer une faute au sens de l'article 242 du Code civil? Et là, à mon avis, on part sur des terrains assez dangereux et qu'il sera, à mon avis, aussi difficile à justifier juridiquement.
Vous voulez dire à partir de quel moment peut-on dire qu'on manque de relations sexuelles au fond ?
Voilà, alors il va falloir rentrer dans l'intimité des couples et là on touche d'ailleurs pas seulement au consentement, au désir, donc à partir de quand on va demander à chacun quelles étaient vos habitudes. Alors bah voilà, effectivement les habitudes ont changé, donc l'absence de relations sexuelles ou la moindre fréquence de relations sexuelles est constitutif d'une faute, eh bien à ce moment-là, bon courage pour les magistrats pour statuer en ce domaine. Et puis aussi, vous savez, il faut revenir aux fondamentaux, la faute au sens de l'article 242 du Code civil, hein, pour que ce soit une cause de divorce. Il faut que ce soit la violation, donc grave ou renouvelée, d'un devoir du mariage, imputable au conjoint. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment imputable à un conjoint de ne plus avoir forcément de désir pour l'autre? C'est aussi un vaste débat.
Au fond, c'est un problème de consentement réciproque. Il n'y a pas de problème qu'un couple n'ait plus de relation sexuelle, du moment que les deux y consentent. Mais s'il n'y en a qu'un des deux, cela peut constituer une faute et cela peut provoquer un divorce, même non consenti.
Oui, mais alors c'est pour ça que pour moi, je vous dirais que le terrain du divorce pour faute n'est pas le meilleur. On a créé, c'est la loi de 2004 sur le divorce, qui a créé un divorce pour cause objective, qui s'appelle l'altération définitive du lien conjugal, et qui est caractérisé par une absence de communauté de vie depuis la réforme du divorce, là, à partir du 1er janvier 2021, par une cessation de communauté de vie depuis un an. Eh bien, finalement, à partir du moment où on rattache la communauté de lit à la cohabitation, pourquoi ne pas plutôt intégrer dans un divorce beaucoup plus objectif comme ça l'absence de relations sexuelles, plutôt qu'aller chercher à tout prix une faute dont serait responsable l'un ou l'autre des époux? Et pour preuve, dans cette fameuse affaire que vous évoquez, le juge aux affaires familiales en première instance avait prononcé un divorce pour altération définitive du lien conjugal, parce qu'il devait estimer que justement tout ce dossier était certainement pas si simple qu'il n'y paraît, et qu'on pouvait pas forcément retenir de faute à l'encontre de l'un ou de l'autre, et que finalement ce divorce pour cause objective était tout à fait sensé.
Mais parfois, continue.
Oui, je voulais simplement ajouter qu'on a quand même un législateur qui n'est pas favorable au divorce pour faute. On essaie considérablement d'en réduire la portée. Et nous, on voit bien en pratique que c'est un divorce qu'on utilise de moins en moins. Il convient parfaitement dans certaines situations, quand la victime le souhaite, notamment en matière de violence conjugale, dans des cas d'adultère vraiment très difficiles, si vous voulez, à vivre pour un époux, parce qu'il est intervenu dans des conditions assez infamantes, voilà, pour lui. Mais est-ce qu'il faut aller sur le terrain du divorce pour faute dans une hypothèse comme la nôtre? Moi, je n'en suis absolument pas convaincue.
Au fond, on ne veut pas être obligé d'avoir de relations sexuelles, mais on ne veut pas non plus divorcer, et surtout pas pour faute. Au fond, on veut être obligé à rien.
Eh bien, écoutez, c'est peut-être aussi la clé d'un mariage qui dure, hein, parce qu'il faut pas oublier que, on a quand même une augmentation très sensible du nombre de divorces. On a un allongement de la durée de la vie qui l'explique aussi, des unions qui sont amenées à durer de plus en plus longtemps. Donc c'est vrai que l'aspect obligationnel du mariage, il existe par certains côtés, hein, c'est évident. On a toujours des devoirs qui sont prévus aux articles 212 et suivants, le devoir d'assistance, le devoir de fidélité également. Mais à imposer tout un carcan, je suis pas sûre qu'effectivement ça corresponde véritablement au mariage tel qu'il est aujourd'hui.
C'est
Il
rare.
Faut laisser une part, certainement, liberté individuelle.
Merci Laurence Mogé-Vielpeau, merci pour cet éclairage. Europe 1. C'est arrivé cette semaine, arrive à son terme. Je vous retrouve demain matin à 9h. Après le flash, vous avez rendez-vous avec Lionel Gougelot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Lionel ?
Bonjour Frédéric. Vous ne serez pas très étonné, Frédéric, si je vous dis qu'on va longuement parler quand même de l'intervention d'Emmanuel Macron mercredi soir à la télévision et l'annonce de ce reconfinement qu'on va mettre entre guillemets, bien sûr, pour la France. Est-ce la bonne stratégie ? C'est la question générale que l'on va se poser. Confinement et vaccination également. L'horizon du 15 mai, est-ce qu'il est tenable cet horizon ? Y a-t-il un risque politique pour le président de la République ? Et puis plus généralement sur la politique, on va parler d'Audrey Pulvar, le malaise au sein du Parti Socialiste, et bien sûr Édouard Philippe le retour. Mais à quel jeu joue l'ancien Premier ministre omniprésent sur la scène médiatique cette semaine ? Toutes les réponses avec nos grandes voix tout à l'heure, à partir de 10h, après le flash de 10h.
Merci Lionel, bonne émission.